おかしいおかしい、
voilà, je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kiamanga, la présentation.
Bonsoir, spécial Dialogue entre Congolais avec le ministre de la Justice, Luzolo Bambi. Il est l'invité unique de cette émission. Mais vous qui nous suivez, vous pouvez aussi lui poser vos questions, monsieur le ministre. Bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, monsieur le ministre est déjà dans ce studio et avec lui, nous aborderons des questions liées au fonctionnement de la justice congolaise, notamment cette actualité avec la révocation depuis hier mercredi par le président de la République d'une centaine de magistrats, la corruption des institutions publiques et l'impunité dénoncée récemment par les évêques catholiques seront également évoquées. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La grosse actualité reste cette révocation d'une centaine de magistrats de leurs fonctions, qui sont aussi, d'autres sont aussi mis en la retraite. Dans une série d'ordonnances publiées hier mercredi à la télévision nationale, il est reproché aux magistrats révoqués d'avoir commis des faits infractionnels graves qui ont été portés à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature. Les deux hauts magistrats, en l'occurrence le premier président de la Cour suprême de justice et le procureur général de la République, sont aussi concernés par cette série de mesures. Selon le syndicat autonome des magistrats, ces deux hauts magistrats ont atteint l'âge de retraite. José de Chartemenga.
Selon ces ordonnances, le chef de l'État a pris ses décisions en concertation avec les conseils supérieurs de la magistrature. Ainsi, plus d'une cinquantaine de magistrats ont été soit révoqués, soit démis de leurs fonctions et mis à la disposition du conseil supérieur de la magistrature, ou carrément mis à la retraite. Presque toutes les juridictions ont été frappées par ces décisions du chef de l'État. De la Cour suprême de justice aux tribunaux de paix, en passant par le parquet général de la République, les parquets généraux, les parquets et tribunaux de grande instance, le coup de balai de Joseph Kabila est passé partout. Le nouveau premier président de la Cour suprême de justice s'appelle Bemoine Dikenga, tandis que le nouveau chef du parquet général de la République a pour nom Kabange Numbi. Aucune réaction jusque-là de la part des organisations syndicales de la magistrature. Signalons tout de même que ces ordonnances du chef de l'État tombent quelques jours seulement après que les évêques catholiques du Congo ont dénoncé la corruption dans toutes les instances de la société congolaise. Fait du hasard ou simple coïncidence, personne ne sait encore le dire au stade actuel.
Alors, monsieur le ministre, Luzolo Bambi, il y a peu, les évêques catholiques venaient de dénoncer la corruption et l'impunité des institutions. L'agence France-Presse rappelle qu'à l'occasion de la célébration, le 30 juin, du 49e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président Kabila avait déclaré que le magistrat abusait, je cite, de l'indépendance liée à la délicatesse et la noblesse de sa charge, se rendant lui aussi coupable de concussion et de corruption avec une facilité déconcertante. C'est Joseph Kabila qui parle. Je suis déterminé à mettre fin à cet état de choses. Monsieur le ministre, est-ce que cette série de révocations, c'est la réponse du président Kabila?
Exactement. Pour votre rappel, depuis le 26 janvier 2001, lors de son entrée en fonction, et beaucoup plus tard, monsieur le président de la République a fustigé le phénomène de la corruption qui gangrène notre société depuis. 2002, il crée la commission de lutte contre la corruption. 2003-2006, période de transition, pareil. 6 décembre 2006, dans son discours d'investiture, il rappelle que l'impunité doit s'arrêter à travers une phrase. Les portes de la prison seront ouvertes. Cela relève donc d'une constance du président de la République dans son esprit de lutter efficacement contre la corruption. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre que, après une analyse à mi-parcours du gouvernement en octobre 2006, il prit la décision de mettre en place un gouvernement de mission. Dans le secteur de la justice, trois missions nous avaient été confiées, à savoir la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption et la réforme de la magistrature. Aussitôt installés, nous avons au mois de décembre relevé que 10 ans auparavant, jamais les magistrats ne s'étaient réunis tous dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, nous les y avons invités au mois de décembre et au nom du gouvernement, en les appelant à restaurer la discipline au sein du corps et à mettre la magistrature en ordre de bataille pour lutter contre la corruption, étant donné que ce phénomène avait été identifié comme gangrénant sérieusement notre vie nationale. J'ai fait de conclusion était ressorti de ce conseil supérieur de la magistrature.
Donc on peut dire aujourd'hui que l'heure a sonné.
Voilà. Plus tard, donc en juin dernier, une seconde fois, la chance était donnée aux magistrats de réfléchir sur la question, et c'est à l'occasion justement de ce conseil supérieur de la magistrature que des résolutions, ou mieux, des propositions d'ordonnances au président de la République ont été transmises, donnant lieu à ces différentes mesures dont vous avez fait allusion tout à l'heure, notamment la révocation, puisque c'est ça qu'il s'agit particulièrement.
Ouais, on va y revenir, monsieur le ministre, parce que pour certains, c'est pas vraiment les résolutions du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est des propositions d'un petit groupe de magistrats. Mais commençons d'abord par la série des réactions. On commence d'abord par les concernés, c'est-à-dire les magistrats. Le président de l'intersyndicat des magistrats et président du syndicat Justice indépendante, pour lui, ces ordonnances influent sur la carrière des magistrats. René Fibou affirme que ces mesures s'inscrivent dans le sens d'améliorer la qualité de la magistrature en RDC. On écoute René Fibou, interrogé par Guy Maté.
Ce sont des mesures qui s'inscrivent dans le sens d'améliorer la qualité de notre magistrature. Bon, le Conseil supérieur a tenu par deux fois ses assises. Nous avons peut-être l'avantage d'avoir un des conseils supérieurs de la magistrature les plus souverains de la planète, parce que de par les constituants, à ce conseil ne siège que les magistrats. Alors c'est donc cette suite logique, mais on aimerait bien en tant que syndicat avoir aussi quelques mesures d'accompagnement du point de vue social, hein, c'est-à-dire ceux qui sont mis à la retraite, que leurs indemnités soient payées et qu'on améliore tant soit peu en tenant compte de la situation économique de notre pays, les traitements des magistrats.
Quant au syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, son président Sambal Mukenda s'est dit surpris par cette décision du chef de l'État et pense qu'elle est entachée de beaucoup d'imperfections. On écoute Sambal Mukenda, président du syndicat autonome des magistrats, joint par Kevin Côté.
Encore une fois, le président de la République a été induit en erreur. Hier, c'était par le ministère de la Justice. Aujourd'hui, c'est par un groupe de magistrats qui, ayant eu la charge de conduire les travaux du Conseil supérieur, ont estimé que le Conseil supérieur ne pouvait pas fonctionner comme une assemblée démocratique. Ils se sont institués en commission spéciale pour faire tous les travaux qui ont été faits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, la sanction présidentielle se trouve prise en souffrance, quelque part, avec des imperfections qu'on constate ça et là. Et nous pensons que le travail aurait été beaucoup plus correct si toutes les résolutions étaient connues des membres du Conseil supérieur dont je fais partie.
Et donc vous avez été un peu surpris par ces ordonnances?
Très surpris par les ordonnances. Et nous pensons que le tort, celui qui le porte maintenant, ce n'est pas le président de la République, c'est les magistrats qui ont soumis le travail, qui doivent nécessairement encaisser toute la responsabilité.
Comment vous réagissez, M. le ministre de l'Obambi?
Rappel au sens des responsabilités du magistrat et de tous les magistrats. Les deux qui sont intervenus ont à juste titre donné la réponse qu'ils ont. Primo, les ordonnances du président de la République n'ont pas été entachées d'erreurs, du moins le président de la République a pris sa part de responsabilité. Ce sont des décisions des magistrats.
Est-ce que c'est du conseil supérieur de la magistrature ou d'un groupe de magistrats, monsieur le ministre?
Lorsque monsieur le président de la République reçoit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature des propositions d'ordonnance dans le rapport du Conseil supérieur de la magistrature, voulez-vous que le président de la République cherche à signer? En vertu de quoi? Et selon quelle procédure? La magistrature est indépendante. Le premier intervenant l'a si bien dit. C'est la magistrature la plus indépendante de la planète, parce que le Conseil supérieur n'est composé que des seuls magistrats. Ils se réunissent en conseil. Ils transmettent leurs propositions au président de la République. Voudriez-vous que ce dernier rentre dans les différentes querelles qui ont émaillé ce Conseil supérieur de la magistrature, de surcroît appelé secondement avec insistance et du président de la République et du gouvernement. Non, faisons la part des choses. Les magistrats doivent s'assumer.
Voilà. Pour répondre aussi aux préoccupations notamment de René Sibou, des magistrats ont été révoqués, d'autres mis à la retraite. Alors, ces mesures d'accompagnement, c'est quoi?
Monsieur le président de la République nous a instruit au gouvernement, et particulièrement le Premier ministre, pour prendre des mesures d'accompagnement.
Ça sera pas très
utile. Ouais. Que les magistrats, les 50 qui ont été mis en retraite, d'abord, puissent bénéficier de leur pension de retraite normalement à la sortie, premièrement. S'agissant de ceux qui ont fait l'objet de nominations et des permutations dans toutes les juridictions et offices, que les faits liés à leur déplacement, eux-mêmes et leurs familles, puissent être pris en compte aussitôt que la date de déplacement, la date butoir est fixée. Et donc, nous considérons en termes de mesures d'accompagnement, le gouvernement mettra le moyen qu'il faut. De même, les problèmes liés au fonctionnement de la magistrature, aux frais de fonctionnement notamment, les problèmes liés au traitement salarial des magistrats.
Voilà.
Et j'ai besoin de vous rappeler déjà que le salaire minimum du magistrat est autour des 400 000 francs actuellement. Cependant, cela, probablement, au vu de la cherté de, au vu de la cherté de la vie, ça n'est pas suffisant, d'une part et d'autre part, bien que cela pour nous ne soit pas justificatif d'actes de corruption, le président de la République et le Premier ministre ont pris la décision, en termes de mesures d'accompagnement, d'améliorer sensiblement la situation salariale du magistrat comme mesure d'accompagnement de ses ordonnances.
Voilà, les magistrats vous suivent et on espère qu'ils sont satisfaits. Mais nous, on fera juste un petit suivi pour voir exactement ce sera quoi ces mesures d'accompagnement. Mais il y a d'autres réactions cette fois du côté des juristes qui sont également des politiques. On salue cette décision du chef de l'État, c'est le cas du PPRD Aubin Miyakou, lui il est avocat et député national, pour lui, ses révocations et nominations sont d'après lui une étape importante pour la réforme de la justice congolaise. Il demande par ailleurs au gouvernement de tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption. Aubin Miyakou, il est interrogé par quel écouté.
J'apprécie l'action du chef de l'État en la mesure où il avait annoncé que des mesures draconiennes devaient être prises pour restaurer la bonne administration de la justice. Ça rentre dans le cadre de ces mesures et ça a été même rapide, ce qui est bon sur le plan politique. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas matière à politisation de l'affaire. C'est une question de gestion des magistrats dans leur carrière et le droit congolais prévoit tous les mécanismes pour ceux qui pourraient se sentir lésés. Et je suis convaincu que le gouvernement va, malgré la crise actuelle, arriver à mettre en place toutes ces soupapes de sécurité afin de lutter contre la corruption et l'impunité.
Et pour le professeur de droit, et il est aussi cadre du MLC, Jacques Joly, il y a des gens qui ont été nommés aux plus hautes fonctions et qui n'ont pas respecté l'évolution normale des carrières. Il y a un fond politique qui voile peut-être la pertinence et l'opportunité de ces nominations. C'est Jacques Joly qui le dit, et là, il est rejoint par Guy Maté.
Lorsque on fait partir quand même un premier président de la Cour suprême ou un procureur général qu'on vient à peine nommer en retraite, je me pose des questions sur les décisions intervenues en ce qui concerne leurs prédécesseurs et eux-mêmes. Quelles sont les motivations réelles? Et en ce qui concerne les autres magistrats du siège du parquet, je ne voudrais pas dire qu'ils sont des anges, mais je crois que des décisions aussi graves, n'est-ce pas, qui touchent aux droits de la personne même, doivent être motivées. Ils doivent être individuels. Voilà, c'est une série de questions qui nous posent la question fondamentale. Finalement, avons-nous envie d'avoir un pilier judiciaire cohérent et conforme à la constitution de l'État démocratique ou dans une volonté peut-être qui peut être louable, ne voulons-nous pas tomber dans cette permanence dotée d'instrumentaliser la justice avec des nominations politiques ou politiciennes?
Voilà, ça c'était Jacques Joly. Monsieur le ministre, on rejoint un peu ce que Aubin Minako a dit. Est-ce que vous voulez dire que avec ces révocations, c'est maintenant la réforme de la justice congolaise qui est repartie?
Exactement. Elle est déjà partie, essentiellement depuis octobre. Pardon, depuis décembre 2006 et particulièrement depuis octobre 2008.
Même si jusque-là, concrètement, c'est la corruption, c'est l'impunité.
C'est qui a changé. La corruption n'est pas encore partie, justement. La stratégie du président de la République. Et c'est cela le changement. Et là, je dis, c'est une coïncidence avec le point de vue exprimé par la conscience épiscopale. Parce que c'est une conscience qui cherche l'État. La préoccupation, c'est de lutter contre la corruption. Les institutions ont été mises en place pour lutter contre. Le résultat s'est avéré négatif. Il fallait changer de stratégie, c'est-à-dire arrêter les discours et passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il fallait mettre la magistrature en ordre de bataille.
Mais il fallait attendre la déclaration des évêques pour le faire.
Non, mais les évêques ont fait leur déclaration après le 30 juin. Le chef de la terre l'avait déjà relevé, le 30 juin.
Mais c'était
le conseil supérieur de la magistrature.
Le 30 juin, c'était un discours,
s'il vous plaît. Et ce que les évêques ont dit n'en était pas un. C'était aussi un discours. Moi, j'ai eu l'occasion, respectablement, de rencontrer les évêques. C'est un discours qui a été, de la part de la conférence épiscopale, plusieurs fois fait. Ils sont dans leur rôle. Je pense qu'il faudrait éviter la polémique ici. Chacun a sa responsabilité. Les évêques gèrent le péché, gèrent nos consciences et les bons et les mauvais. Ils ont fait leur devoir et ils ne cesseront pas de le faire. Moi, ministre, ils m'ont reçu, ils me l'ont rappelé. Le chef de l'État, gérant le temporel, a pris dans la constance sa décision à temps. C'est lui qui a impulsé les deux convocations du Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier, tenu du 11 au 23 juin, lui a transmis les rapports le 29 juin et le 30, il a indiqué qu'il allait en tirer les conséquences constitutionnelles. Et c'est ce qu'il a fait.
Voilà, il a fait, mais il y a c'est la manière maintenant de le faire. Des magistrats qui sont révoqués, et là, ils n'ont même pas été entendus.
Je ne suis pas d'accord avec ce que mon collègue Jacques Joly venait de relever tout à l'heure. Il me semble bien qu'il n'ait pas lu ces ordonnances. Rappelez-vous si vous les avez ne fût-ce que suivies oralement. Toutes les ordonnances sont motivées. L'ordonnance portant révocation a référé tous les arrêts de la Cour suprême de justice ayant condamné à la prise à partie les magistrats qui ont été révoqués. Il y a une série d'arrêts. C'est cela la motivation, d'une part. D'autre part, nomination politique. Mais l'actuel procureur général de la République fut premier avocat général de la République. Est-ce que le professeur Joly connaît une fonction au-dessus de celle du premier avocat général de la République? Est-ce qu'il le connaît?
Malheureusement, il n'est pas là pour vous répondre.
Malheureusement, mais de toute manière, je suis là parce que, justement, il a dit, et je suis bien obligé de le dire, de toute manière, le problème n'est pas là. Je dis, tout le monde, et en particulier le chef de l'État, veut que la corruption cesse. Il part de la considération que de tous les corps de la République, parce que la corruption a gangréné notre société. Cependant, de tous les corps de la République, la magistrature, elle, a reçu constitutionnellement mission de lutter spécifiquement contre la magistrature et contre toute la corruption. Alors, lorsque elle-même est gangrénée, ça devient beaucoup plus grave. Alors en la mettant en ordre de bataille, par son assainissement, on considère, le chef de l'État a considéré que la magistrature sera apte à poser des actes qui puissent impulser sur le reste de la société.
Monsieur le ministre, justement, en revenant à ces ordonnances, il est dit que les magistrats sont révoqués pour infraction. Quelle infraction exactement?
Mais le chef de l'État, dans cette ordonnance, a référé que, étant entendu que ces magistrats sont aussi, ont aussi commis des infractions de droit ordinaire. Vous savez que les magistrats certains ont commis le dol.
C'est-à-dire quoi, le dol pour ceux qui nous suivent?
Agir intentionnellement dans le sens de nuire. Des jugements ont été rendus dolosivement. Il y a eu des dénis de justice. Évidemment, vous me direz, déni de justice, dol, non. Parmi ces infractions, certains, parmi peut-être ces magistrats, certains ont commis le dol. Tirer le dol, c'est un élément intentionnel qui rentre dans une infraction, mais qui n'est pas une infraction spécifique. Mais de ces magistrats, certains ont commis des infractions, des coups et blessures, mais qui ont été la liste de tous les magistrats révoqués. La liste de tous les magistrats révoqués n'est pas expliqué au seul, à la seule prise à partie. Parmi eux, il y a des magistrats qui ont été condamnés pour des infractions ordinaires, mais qui sont repris dans la liste de ceux qui sont révoqués. Et comme l'ordonnance du président a un seul visa parce qu'il répond tous ces magistrats, autant, s'agissant de la prise à partie, dans le visa de l'ordonnance, il a été référé les arrêts de condamnation, autant aussi pour d'autres, il a été référé des condamnations pour les infractions de droit ordinaire.
Oui, mais qu'est-ce qui prouve que ces infractions que vous leur reprochez sont vraies?
Est-il besoin de chercher à le prouver, cher ami?
Parce qu'on ne peut pas vous accuser de les avoir évoqués de façon arbitraire.
C'est ignorer la procédure. À chacun d'assumer ses actes. Voici la procédure. Les magistrats se réunissent en conseil supérieur de la magistrature. Ils vivent de leur litige. À l'issue de leur réunion, ils transmettent au président de la République les propositions de décision, des sanctions. Il faut éviter un amalgame ici.
C'est pourquoi je dis,
oui. C'est au magistrat de s'assumer. Vous voulez que le président de la République, ayant reçu les propositions du Conseil supérieur de la magistrature, commence à les remettre en question. Mais c'est cela.
Non, monsieur le ministre, là, si je dis cela, d'ailleurs, je peux vous citer ici, c'est un magistrat qui a parlé sous anonymat à l'agence France-Forest, il dit ceci, je cite, « La loi et la procédure de révocation n'ont pas été respectées. On n'a pas été entendu dans les chambres disciplinaires pour savoir ce qu'on nous reproche. »
Deux observations. L'une morale, l'autre juridique. Je commence par la juridique. L'observation de ce magistrat est vraie quant à la procédure disciplinaire du magistrat. Il appartient au Conseil supérieur de la magistrature de le relever et de l'observer. Lorsque le Conseil supérieur ne l'a pas fait, il appartient au magistrat, technicien du droit, d'user de toutes les voies de recours pour obtenir de ce même conseil une ordonnance de réhabilitation de la part du président de la République. Il faut le mettre, le président, en dehors du lieu.
Mais est-ce que le président ne pouvait pas ne faire qu'exiger cela des magistrats?
Il lui en est interdit constitutionnellement. C'est une décision des magistrats agissant en toute indépendance. Deuxième observation, c'est d'ordre moral. Peu importe que la condamnation à la prise en partie soit de nature à donner lieu à des suites disciplinaires ou pas, comme c'est le cas et comme cela a été évoqué, il n'est pas normal qu'un magistrat puisse user de la loi pour justifier son immoralité et son échappement à la sanction, et après se prévaloir de sa qualité de pouvoir tirer le droit.
C'est ça. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas la première mise à la retraite ni révocation des magistrats. En février 2008, l'année dernière, 92 magistrats avaient été mis en retraite et cette fois-ci c'est près d'une centaine. Mais qu'est-ce qui va changer avec les nouveaux magistrats?
Ce qui va changer.
Par rapport à la lutte contre l'impunité, par exemple.
Ce qui va changer, c'est que demain, en rendant un jugement, le magistrat inférieur à la Cour suprême de justice évitera que son jugement puisse être attaqué en prise à partie parce qu'il saura qu'il risque sa carrière. La seule garantie de sécurité professionnelle pour le magistrat, c'est cela en rendant son jugement à le dire clairement et conformément à la loi parce qu'en âme et conscience, il saura que même prise à partie, il aura raison. Et donc sa fonction sera protégée. Ça, c'est un premier effet pédagogique. D'ailleurs, en agissant ainsi, systématiquement, dans tous les cours et tribunaux, les citoyens pourront obtenir justice équitable, parce qu'ils se trouveront devant des magistrats qui auront peur de dire le droit légèrement et de tomber à tous les actes qui dévoient la magistrature, la corruption et autres, parce que il y aura la présence de la sanction possible par le recours de la prise à partie de la personne qui s'exprimera lésée par le jugement. Donc c'est une disposition préventive au profit des justiciables.
Et vous voulez dire que cette disposition-là ne concernait pas les 92 magistrats qui avaient été, du moins ceux qui ont travaillé, que vous venez de révoquer avant. Ils n'étaient pas concernés par ça?
Je n'ai pas compris la question.
Non, je dis que les magistrats que vous venez de révoquer maintenant, parce que je vous dis que c'est le président de la République qui les a nommés en 2008,
oui,
au mois de février. Mais pourquoi ils n'ont pas eu peur? Parce que vous dites que les nouveaux...
C'est la première fois que la prise à partie est exploitée à des fins disciplinaires.
C'est quoi la prise à partie?
C'est le fait pour un magistrat d'être accusé auprès des juges de la Cour suprême de justice comme ayant rendu le jugement légèrement, dans une intention de nuire ou, à une autre raison, de légèreté.
Est-ce que ça n'a jamais existé dans ce pays?
La prise à partie?
Oui.
Et bien sûr que si, justement. Cher ami, merci de me poser la question. Les prises à partie existent depuis un bon moment. Jamais les magistrats n'ont eu n'ont pris la décision d'en tirer des conséquences disciplinaires. C'était pratiquement une disposition inutile. Parce qu'il était même arrivé que l'État congolais soit sanctionné, c'est-à-dire condamné au paiement des dommages intérêts de la victime, à la victime plutôt, ayant gagné le procès en prise à partie. Donc c'est l'État congolais qui a payé pendant longtemps et les magistrats n'en ont tiré aucune conséquence. La première, cette fois-ci, c'est que cette disposition deviendra dissuasive à la corruption et au dévoiement de la justice. Je respecte toutes les souffrances dues aux malfaçons possibles de procédure. J'énonce un principe ici. Dans tous les cas, le débat n'est pas est-ce qu'on a eu raison par la prise à partie ou pas. Le débat est-ce que le président de la République a régulièrement tiré conséquence des propositions du Conseil supérieur de la magistrature? Oui.
Vous accusez aussi les magistrats, monsieur le ministre, excusez-moi, mais vous ne donnez toujours pas tous les moyens à ces magistrats. Quand on voit les magistrats que vous envoyez dans les coins lointains de la RDC, c'est dans des conditions presque invivables. Comment voulez-vous que des magistrats comme ça ne s'adonnent pas à la corruption?
Une précision. Je ne suis pas là pour accuser les magistrats. Je suis le ministre de la Justice, je protège les magistrats.
Vous les protégez comment?
Je les protège en demandant au gouvernement de veiller aux conditions de travail des magistrats. Depuis fort longtemps, et presque dans tous les pays du monde, le taux réservé à la justice par rapport à l'ensemble du budget, à soi était faible. Il est davantage chez nous. Il est davantage chez nous, mais des efforts ont été fournis. Je vous ai dit que le magistrat touche un salaire minimum de 400 000 francs. Ce n'est pas assez. Mais en termes d'efforts par rapport à ce qui travaille dans le service public de l'État, c'en est quelque chose. Et je venais de vous dire encore que le gouvernement a pris la décision de mettre les moyens conséquents pour soutenir les magistrats et particulièrement pour les mettre en ordre de bataille.
C'est ce qu'on va voir, monsieur le ministre. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. On va, si vous permettez, on va essayer de les découvrir. Et là, j'ai c'est une réaction qui nous vient du Nord Kivu. Les magistrats sont révoqués, mais au Nord Kivu, il y a des magistrats qui sont sous mandat d'arrêt signé par le procureur général de la République sortant en septembre 2008. Mais ils sont toujours à l'exercice quel sera leur sort. Vous allez peut-être y répondre très rapidement, comme ça on passe réaction après réaction ou avec des questions des auditeurs. Quel sera le sort, justement, de ces magistrats qui sont en or qui vous, sous mandat d'arrêt signé par le procureur général de la République sortant, ce sera quoi leur sort?
C'est juridiquement inexplicable ce que vous dites.
En tout cas, c'est ce
que la réaction de l'audience qui nous a amené. Peut être sous mandat d'arrêt,
ouais,
et exercer en même temps. Ou il est aux arrêts, ou il est libre. Si ces magistrats exercent, c'est qu'ils sont libres, donc ils ne sont pas sous mandat d'arrêt. Il est possible qu'il ait voulu dire que ces magistrats sont inculpés, c'est-à-dire un dossier a été ouvert à leur charge. S'ils ne sont pas encore condamnés, c'est qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il va falloir attendre qu'ils soient condamnés pour que, sous le plan professionnel, des conséquences en soient tirées.
Voilà. Andy de Madakai dit, est-ce que la révocation seule suffit comme sanction, ou bien certains seront traduits en justice, monsieur le ministre?
Ça dépend. Ça dépend. Mais il me semble bien qu'ici, ceux qui ont commis des faits infractionnels sont censés avoir été condamnés, et ce sont ces condamnations qui ont donné lieu à leur révocation. Pour ceux qui ont été condamnés dans le cadre de la procédure de la prise à partie, ce n'est pas une infraction, la prise à partie. C'est en quelque sorte une faute professionnelle. Encore que là aussi, il faudrait que demain, que la loi soit bien, organisée pour que, le statut disciplinaire de la prise à partie puisse être formellement organisé. Ça, je le reconnais.
Voilà, ça c'est un peu la situation des magistrats. Donc, monsieur le ministre, vous promettez qu'avec cette mise en place des magistrats, en tout cas, on aura des nouveaux magistrats un peu plus sains que les autres.
C'est que le chef de l'État considère, c'est que en restaurant la discipline à la magistrature, on aura des magistrats plus disciplinés qu'avant, et lorsque eux le seront, ils vont impulser la discipline dans l'ensemble de la société. Parce que lorsque une magistrature est debout, lorsque la magistrature est disciplinée, le reste suit. La justice est le socle de la bonne gouvernance et de l'ordre de la société. Notre devise est justice.
Voilà, il y a ce, il y a ce dossier de la corruption qui a justement été évoqué ou même dénoncé par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et on va écouter l'abbé Félicien Mwanama, le secrétaire général adjoint de la CENCO. Ici, justement, il dénonce tout ce qui a rapport avec cette corruption. On écoute.
Est-ce que le gouvernement garantit la moralité publique? Est-ce qu'il sanctionne? Est-ce qu'il informe suffisamment? Est-ce qu'il protège le faible lorsqu'il dénonce? Le salaire des enseignants qu'on détourne nos vies au-dessus de tous, est-ce qu'il y a des mesures? Vous me dites que le passeport coûte autant, quand je vais là-bas, je dois glisser l'argent dans des chemises pour déposer mon dossier. Que fait le gouvernement? Vous me dites qu'une plaque d'immatriculation coûte autant, ça coûte $50 quand j'arrive là-bas. Non, il y a des frais supplémentaires. La nomenclature n'est même pas connue. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Les prix des denrées alimentaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait?
Voilà, ça c'était l'abbé Félicien. Et là, nous enchaînons avec l'honorable Amoury. Lui, il est député national. Il demande au ministre de la Justice où sont passées les personnes qui avaient été arrêtées sous motif qu'elles avaient détourné l'argent de l'État. Où en est-on avec ce dossier, monsieur le ministre?
À ces deux préoccupations légitimes, je précise qu'il s'agit de la responsabilité de la magistrature.
Encore une fois.
Encore une fois.
Et pas du gouvernement.
Légèrement. Légèrement du gouvernement, mais essentiellement de la magistrature. Pourquoi? Monsieur l'abbé a bien voulu savoir comment expliquer que des détournements d'argent se fassent sans qu'il y ait des sanctions. Mais qui a les soumissions de poursuivre? Ce n'est pas le gouvernement. Le ministre de la Justice n'arrête pas. Le président de la République, en dépit de ses hautes fonctions, n'arrête pas.
Mais qu'est-ce que lui peut faire pour sanctionner ces magistrats?
Le président de la République, ou le premier ministre, ou les membres du gouvernement relevant des anomalies judiciaires infractionnelles dans ce secteur, informent le ministre de la Justice. Pour le président de la République et le premier ministre, ils enjoignent le ministre de la Justice pour lui demander de faire déclencher à la magistrature, par la magistrature, des poursuites. Le ministre de la Justice a reçu par la loi le pouvoir d'injonction.
Donc, c'est lui qui vient de se faire.
Le ministre, c'est ce qu'il fait.
Il
y a un cas patent. En décembre 2008, il vous souviendra, les arrestations des expatriés, entrepreneurs dans les marchés, dans les travaux de construction.
Et dont beaucoup ont fui aussi, hein, certains ont fui.
D'autres, ça va, ils ont fui. Mais nombreux, parmi eux, sont restés sur place.
C'est pas
n'ont jamais, pas en prison. Le gouvernement a demandé...
C'est l'impunité, justement.
Alors, la faute à qui? Alors, c'était à qui? Le gouvernement a demandé que l'enquête soit ouverte, ça a été ouvert, les personnes ont été arrêtées, et mises en liberté. Jusqu'à ce jour, aucune suite judiciaire et la justice est indépendante. Que peut faire le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice là-dessus? Alors, je réponds à M. Lavey pour lui dire qu'il faut faire la part des choses. La responsabilité de la magistrature en toute indépendance l'oblige à ouvrir des enquêtes et à poursuivre les personnes sans interférence. Et le président a dit de la relever, que l'interférence est une infraction. S'agissant de l'autre intervenant, qu'est-ce qu'on fait des détourneurs? Encore une fois, il ne faut pas confondre le rôle du gouvernement à celui de la magistrature. C'est encore, et une fois, la fonction de la magistrature de poursuivre. Lorsqu'elle ne poursuit pas, malheureusement, elle met la société en difficulté.
Oui, mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, on ne peut pas vous reprocher de mettre longtemps avant de mettre cette pression sur la magistrature, justement, pour qu'elle poursuive les délinquants?
La pression est interdite. Il s'agit d'une interférence. La loi autorise le ministre de la Justice d'instruire, donc de donner injonction.
Peut-être qu'on vous mettait trop de temps pour donner ces injonctions.
Je ne suis pas certain que vous ayez raison.
Non, parce que vous
au avez... nombre d'injonctions.
Parce que là, vous avez pris une année pour que des magistrats soient révoqués. Ça a pris une année.
On a pris une année pour que les magistrats soient révoqués. Non, ce qui est vrai, je vous l'ai dit, c'est que le président de la République ne peut pas révoquer les magistrats sans que le Conseil supérieur de la magistrature le propose.
Mais ça dit, ça a pris une année, l'injonction a pris une année avant
non,
que finalement...
Le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas réuni pendant 10 ans. Il ne s'est réuni qu'au mois de décembre dernier et au mois de juin. Pourquoi ne s'est-il pas réuni pendant 10 ans? Est-ce parce qu'on ne voulait pas qu'il siège pour des sanctions disciplinaires?
Alors, on espère, M. le ministre, que maintenant, avec des nouveaux magistrats, vous allez intensifier vos injonctions pour que ceux qui ont détourné de l'argent, des députés qui ont été accusés d'avoir été corrompus par DG de la Direction Générale des Impôts, ceux qui avaient été accusés par le ministre Mayobo, qui a révélé qu'il y a eu des détournements de plus d'1 milliard de dollars, tout ce monde-là va être poursuivi.
Absolument, mais c'est aux magistrats qu'il faut adresser cette recommandation.
Donc c'est pour le gouvernement.
Oui, on le fera, mais pour le gouvernement, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas, d'autant plus que pour renforcer la présence de la magistrature à travers le pays, le gouvernement a pris la décision d'obtenir du Conseil supérieur de la magistrature le recrutement des 500 nouveaux magistrats d'ici le début du mois d'août, afin que ces magistrats puissent être répartis dans tous les territoires et rendre consacrer la proximité de la justice avec la population. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes dans le secteur de la magistrature, dans le secteur des magistrats, en matière de lutte contre la corruption. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup plus de corruption chez les magistrats qu'ailleurs. La corruption, c'est un phénomène général dans notre pays.
Et les magistrats ne sont pas le bouc émissaire.
Les magistrats ne sont pas les boucs émissaires. La corruption est généralisée et ce serait injuste de les regarder comme étant les seuls corrompus. Ça, j'en conviens. Ce qu'il faut relever, c'est que le rôle que les magistrats sont appelés à jouer dans cette lutte est primordial par rapport aux autres corps de la République.
Monsieur le ministre, à part cette révocation des magistrats, où en est-on avec la réforme de la justice aujourd'hui, finalement?
La réforme de la justice...
Parce qu'on devrait avoir la Cour de cassation, le Conseil d'État, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Et là, deux approches. Structurelle, donc structure humaine, et infrastructurelle. Sur le plan de la structure humaine, j'ai deux petits calculs à faire avec vous à haute voix. Nous avons une population de 60 millions d'habitants. Nous avons 2300 magistrats civils et militaires. Nous avons un magistrat pour 30 000 habitants au Congo. C'est difficile de rendre la justice et d'exercer une pression pénale pour que l'ordre public soit rétabli. Il faut recruter. C'est pourquoi nous recrutons. Nous avons programmé 1250 magistrats. Nous commençons par 500 cette année et ça suivra. Sur le plan infrastructurel, ça signifie présence des bâtiments, présence des offices et juridictions. Nous avons 2 345 000 km² de superficie. Nous avons 230 offices et juridictions.
Il nous reste peut-être pas beaucoup de temps, mais il faut être un peu plus concret.
C'est le même calcul. Oui. Nous avons une juridiction sur une superficie de 30 000 km². C'est il faut donc procéder à l'essaimage de la justice.
Est-ce que la justice militaire aussi, vous allez un peu être regardante dedans? Parce que là, il y a une ONG qui a accusé des militaires d'exceller dans les viols.
Les réformes qui ont été, enfin, les ordonnances qui ont été publiées, promulguées par le chef de l'État, vont se suivre. Et seront suivies d'autres ordonnances qui vont concerner la justice militaire. Ce qui est fait, la justice civile concernera aussi dans les jours qui viennent la justice militaire. Effectivement, là, c'est le volet de la lutte contre l'impunité. Dans l'esprit du chef de l'État, c'est la tolérance zéro à la corruption. C'est la tolérance zéro à l'impunité. Cela veut dire concrètement qu'aujourd'hui, la réforme du personnel de la magistrature annonce des actes luttant contre la corruption et luttant contre l'impunité pour que cette lutte-là cesse d'être un slogan. Pour le chef de l'État, ce n'est plus un slogan, c'est une réalité.
Oui. Monsieur le ministre, c'est peut-être la toute dernière question de cette émission. Monsieur le ministre, excusez-moi, vous avez été au Rwanda quand même, c'était pour le dossier Laurent Okunda. Où est-ce qu'on allait avec son transfert à Kinshasa?
Le transfert de Laurent Okunda fait l'objet de la procédure d'extradition, qui est une procédure inter-État. Pour votre rappel, l'extradition n'est pas la remise d'une personne, procédure de la Cour pénale internationale. Et dans l'histoire judiciaire de tous les États, l'extradition est une procédure qui prend souvent du temps. Dans certains pays, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce ne sera pas le cas pour Laurent Okunda. Nous nous sommes rencontrés avec mon homologue rwandais. Nous avons ensemble identifié le point de convergence et de divergence. Nous avons convenu de nous revoir après quelques temps et la semaine passée, nous avons été en contact, nous sommes en train d'organiser une nouvelle rencontre. Donc c'est un processus. Le principe pour le Congo étant que M. Laurent Okunda puisse être extradé. Mais la justice prend son temps. Le plus important, c'est l'aboutissement.
Mais est-ce que finalement votre descente à Kigali était un échec? Parce que vous êtes allé là-bas pour son transfert.
Je ne suis pas allé pour prendre M. Okunda et le transporter vers Kinshasa.
Donc vous êtes allé là-bas pour faire quoi, finalement?
Je suis allé pour discuter, conformément à la procédure, des modalités d'extradition de M. Okunda, et non pour le prendre et l'amener avec moi. Et donc, ce n'était pas du tout un échec, c'était une démarche gouvernementale normale, dans le cadre d'un processus qui se tient jusque-là, donc il n'y a pas de plus d'échec.
Et donc vous croyez vraiment que Laurent Okunda sera transféré un jour?
Plus que fermement.
C'est une promesse ferme.
Vous l'avez bien dit.
Voilà, monsieur le ministre, nous sommes arrivés, bien sûr, on va vous donner une petite minute pour donner le dernier mot, du moins pour cette émission, monsieur le ministre, nous allons en dire. Je prends une gorgée d'eau, ouais. Ça les auditeurs de voir.
Oui. J'ai deux petites phrases, deux petits mots. Je pense qu'il faut qu'on croie à l'action chef de l'État dans la lutte contre la corruption, qui maintenant c'est déjà une réalité. Parce que le défi d'un grand peuple pour la République démocratique du Congo est à l'échelle de ses malheurs,
et que
des malheurs de la corruption.
Et que des Kouluna en cravate, comme vous l'avez toujours dit,
ils seront poursuivis. Deuxièmement, comme vous l'apercevez, comme le relève notre devise, le vrai combat de ce moment, c'est le combat pour la justice. Car, vous l'avez bien remarqué, à travers tant de désirs formulés ou non formulés, c'est le règne de la justice qu'appellent les aspirations profondes du peuple congolais.
Monsieur le ministre, on vous dit bien sûr merci, mais on va attendre voir si une année après, vous n'allez pas encore démettre ces nouveaux magistrats.
Ben, c'est pourquoi les démettre? Pour autant, aussi longtemps qu'ils vont bien se comporter, ce sera bien.
Merci beaucoup, monsieur Luzolo Bambi. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et puis, si bien sûr, elle a été à la mise en œuvre et qui maintient la réalisation.